Festival international de journalisme de Perros jour 2, où il a été entre autres question de l'audio et de la créativité que l'intelligence artificielle permettait de pouvoir apporter dans les workflows, la façon aussi dans laquelle on peut utiliser, et de manière assez utile d'ailleurs, le journalisme de solution appliqué au journalisme lui-même, c'est-à-dire comment trouver des nouveaux modèles économiques pour les médias. On parle aussi de la régulation nécessaire, mais pas forcément indispensable, et en tout cas pas la pousser trop loin à cette régulation au risque de la voir se retourner contre les journalistes. Et puis cette découverte absolument fantastique, c'est les lieux publics en Allemagne. Bon, évidemment, sans surprise, l'IA a été au centre de pas mal de conversations et de talks ici sur la première journée, avec une remarque que je trouvais particulièrement intéressante d'Emily Bell, qui travaille au sein notamment des organes de régulation aux États-Unis, qui dit qu'aux États-Unis, il n'y a aucune régulation pour eux en ce qui concerne le journalisme, parce que le premier amendement des États-Unis privilégie de manière sacro-sainte la liberté d'expression. Et que si on se met à réguler, comme c'est le cas en Europe pour l'instant, évidemment, il y a un cadre pouvoir respecter, à faire en sorte que les droits d'auteur, entre autres, puissent être appliqués, et que trop de régulation tue la régulation, et notamment si on se retrouve avec des partis d'extrême droite au pouvoir. Et ça nous prend, on est progressivement. Si on régule trop, et si on interdit l'usage de l'IA de manière trop contraignante, ou d'une manière où on va empêcher de l'information de sortir, parce qu'on aurait utilisé l'intelligence artificielle, les pouvoirs d'extrême droite, de tout bord d'ailleurs, quel qu'il soit ici en Europe, si aux États-Unis, pourrait s'en servir pour museler la presse. Et ça, c'est un aspect sur lequel on n'a peut-être pas encore vraiment beaucoup de recul. Et la créativité que l'IA amène dans les rédactions va permettre de pouvoir porter des voix qui étaient par exemple uniquement en français, dans d'autres langues, ou uniquement en espagnol, de les amener en français. On pense aussi à tous les pays du Sud-Est, l'Amérique du Sud. Du côté asiatique, c'est toutes des voix qu'on entend très très peu en Europe, et que l'IA pourrait permettre, entre autres, de pouvoir amener jusqu'à chez nous. Et inversement, et si un jour on se retrouve avec des partis fascistes, des partis d'extrême droite qui veulent museler la liberté d'expression, ils pourraient s'appuyer sur une régulation qui serait mal faite ou qui serait trop contraignante. Et donc, un des conseils qui était donné, en tout cas une piste à creuser, c'est oui, il faut réguler pour que les créateurs de contenu puissent continuer à bénéficier de leurs droits, tout simplement, et à être rémunérés pour leur boulot. Mais attention de ne pas aller trop vite. Attention de ne pas chercher à trop contraindre, parce que sinon d'autres, au pouvoir, pourraient s'en servir pour museler la presse. Ça, c'est vachement bien. Un autre panel super intéressant, c'était sur la créativité et l'audio, avec notamment Afterposten en Norvège, qui s'est servi de l'intelligence artificielle pour pouvoir traduire en audio, tout simplement, des textes écrits à destination de toutes les personnes, et c'est 400 000 personnes en Norvège, c'est pas rien en termes de public cible, toutes les personnes qui souffrent de déficit de l'attention, de dyslexie, de troubles TDAH. Ça paraît vraiment des super bons usages pour l'IA, parce qu'il y a vraiment un côté serviciel, il y a vraiment un côté mécanique qu'on n'aurait pas pu faire avant. Ce serait juste pas possible sans l'IA de passer à la moulinette tous les articles de la mettre en forme, et d'autant plus que l'audio en Norvège, c'est quelque chose de vachement, vachement important, parce que l'accent, la manière dans laquelle on met l'accent tonique sur certaines phrases, ça ne veut plus dire tout à fait la même chose quand on ne met pas l'accent au bon endroit. Donc voilà, ça fait partie des usages. Alors, Ezra Eman parlait aussi à la NPO aux Pays-Bas de l'expérimentation qu'ils ont fait pour pouvoir amener l'audio de manière beaucoup plus consistante, pour que les gens puissent choisir quand on vient du monde audiovisuel, et pire, encore mieux, quand on vient du monde de la presse écrite, de pouvoir donner des nouvelles formes, de pouvoir aussi raconter des histoires autrement, de pouvoir engager les audiences autrement, sans les mains, sans devoir scroller sur son téléphone, sans être aspiré par son écran. On dépose son téléphone, on a de l'audio dans les oreilles, et ça permet de pouvoir tout simplement se faire embarquer dans des histoires auxquelles on n'aurait probablement pas eu accès. Avec un truc super intéressant aussi, c'est le fait d'avoir des playlists, de ne pas écouter que ce qu'on cherche à entendre, parce qu'on s'est abonné, de garder ce caractère de découvrabilité, d'être surpris aussi, d'aller à cette frontière de la bulle de filtre, celle où on est encore un peu dans le monde connu. On n'est pas carrément dans un monde inconnu, mais on arrive à cette frontière de la bulle où on continue à découvrir des choses. On n'a pas l'impression d'être forcé à sortir de sa zone de confort. Par contre, on découvre des choses, et ça aussi, c'est vachement important. Cette première journée s'est conclue par la découverte d'un lieu assez incroyable à Berlin, Publix. Je vous invite vraiment à aller voir publix.de. C'est un lieu qui va ouvrir en septembre, qui se, eux-mêmes se décrivent comme étant un lieu pour la démocratie et le journalisme. En fait, le but, c'est de mettre des briques en plein centre de Berlin, ce qui est impayable. Et donc, c'est des philanthropes qui ont financé ça. C'est une famille de philanthropes en Allemagne qui a financé ça. C'est un projet qui est né en 2017, donc c'est pas tout nouveau, mais c'est tellement innovant dans la façon dans laquelle ils perçoivent la chose. Mettre ensemble des rédactions, parce qu'il va y avoir plusieurs médias qui vont être ensemble. Au sein d'un lieu ouvert, avec des espaces de coworking, avec de la bonne bouffe, du bon café, ils ont insisté sur le café, avec des chambres pour pouvoir dormir, avec des lieux de rencontres, de concerts. Enfin bref, ça va être bouillonnant de créativité. Et c'est ce qu'ils attendent d'ailleurs, le média narratif, c'est Correctif qui est là. Mais il y a plein d'autres médias qui vont venir dessus. C'est vraiment un projet tellement enthousiasmant, moi ça fait écho à plein de trucs auxquels... Voilà, j'ai eu l'occasion de me frotter dans les années précédentes quand j'emmène mes étudiants en résidence, on dort sur place, on mène des projets, on rencontre des gens, on boit des coups le soir. Tout ça pour le bien commun quelque part, de l'information parce qu'on en a besoin. Le motto, c'est de se dire qu'il n'y a qu'une porte à pousser et on peut rencontrer des journalistes, on peut discuter avec la rédaction, on peut échanger, on peut co-construire des choses. Ça, c'est vraiment... je trouve que je prends mes billets de train tout de suite pour aller à Berlin en septembre à l'inauguration. Enfin, voilà, moi, speechless. C'est vraiment pour ce genre de rencontre et ce genre de découverte qu'on vient à Pérouse. Cerise sur le gâteau, le fait de mettre un bâtiment, de construire un bâtiment brick and mortar au plein milieu de Berlin. Le rédacteur en chef de Correctif a eu ce mot juste génial, c'est de dire « Et si les fachos veulent nous dégager, nous on met des briques, on met des pierres, on sera là, on bougera pas et ce sera à eux de se barrer. » Jeez, fantastique.